Toronto. Beavers.
Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de RCV, RCV 99 FM à Lille et aux environs, rcv-lille.com. Salut Manu.
Salut Nico.
Nouveau numéro d'Auto-Reverse, Auto-Reverse tous les lundis de 5 à 6, retour sur un album, ses influences, ses contemporains, ses héritiers. Aujourd'hui Manu, on va parler d'un album de Rachid Taha, l'album Made in Medina.
Effectivement, donc son album de 2000, donc Rachid Taha, un artiste qu'on n'a pas encore auto-reversé et qu'on avait dans les tuyaux de longue date, et ça y est, voilà, le moment est venu.
On va voir comment c'est l'occasion avec Rachid Taha de passer plein de choses assez différentes, du rock, de la musique maghrébine. On va voir ça, c'est assez chouette comme mélange. Made in Medina, c'est quoi Manu, c'est son combienième album?
Alors il a une carrière en groupe ouais. Avant Rachid Taha avec le groupe Carte de Séjour, sur lequel on reviendra. Donc si on compte ce qu'il a fait avec Carte de Séjour avant, c'est le 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8, 9e album, si je me trompe pas, sous son nom propre. Il faut en enlever, 3 avant, sachant que dans ceux que j'ai compté, il y a aussi ce qu'il a fait connaître, en fait, c'est son 1, 2, 3 Soleil avec ouais. Faudel et puis Khaled. Voilà, mais sur son nom propre, tout seul, il y a 1, 2, 3, 4. Et là, c'est le 6e album.
Très bien. Voilà. On va écouter tout ça aujourd'hui. Retour donc, décryptage de l'album Made in Medina de Rachid Taha. C'est pendant une heure dans Auto-Reverse. On commence tout de suite avec un premier extrait.
C'est la plage 2 de l'album qui s'appelle, j'espère ne pas trop mal le prononcer, pardon, Fucked Fucked. Splash. Fuck, fuck, do another bash. Woo!
Vous êtes bien à l'antenne de RCV avec un premier morceau extrait de l'album du jour, l'album Made in Medina de Rachita. On est en 2000, le morceau à la plage numéro 2 qui s'appelle Fucked Fucked, un morceau de 6 minutes qui nous permet d'entrer dans l'univers de Rachita, un artiste qu'on va, dont on va parler aujourd'hui. Manu, on va revenir un peu sur son parcours, sur son histoire. Rachita qui est algérien, c'est ça, et qui a toujours refusé de prendre la nationalité française.
Oui, oui, alors il arrive en France, il est né en 58, il arrive en France 10 ans plus tard, et bien qu'ayant donc passé le plus clair de son temps sur le territoire français, et bien qu'ayant pu être à certains moments érigé en symbole de l'intégration à la française, avec tous les problèmes que cette notion peut poser, et bien il a toujours refusé de prendre la nationalité française, et dit-il notamment en fidélité à un de ses oncles, je pense, qui est mort pendant ce qu'on va appeler la révolution algérienne.
Donc il vient d'Algérie, il est né en 58, ça lui fait 55 ans maintenant, donc il est plutôt jeune, Rachita.
Non, mais pourtant.
C'est un petit jeune chanteur, mais non. Et donc, de la région de Béjaïa, voilà, l'occasion de saluer mon ami Jamel, qui vient de là-bas aussi.
Eh bien, saluons Jamel.
Donc, il n'est pas français, ce qui lui oblige, j'imagine, à renouveler sa carte de séjour régulièrement, et ce sera l'occasion de parler de son groupe carte de séjour. On en parle tout de suite ou...
On peut en parler tout de suite. Donc,
Ses influences aussi, il en arrive à créer très vite des groupes et à faire de la musique.
Alors, ce qu'il raconte, donc, c'est qu'il arrive quand il a 10 ans, visiblement un élève un peu turbulent, etc., et qu'il arrive plutôt dans l'est de la France, plutôt dans des petits bleds, et un petit village, je voudrais plutôt dire, là, et qui, à 18, 20 ans, enfin, je sais pas exactement, à la majorité passée, en tout cas, il arrive à Lyon, il a fait quelques études en comptabilité, mais il trouve pas de boulot dans son secteur, il bosse à l'usine, et c'est à l'usine qu'il rencontre deux autres, collègues qui sont dans la même situation que lui, avec lesquels il décide, qui ont déjà un groupe, qui jouent dans un grenier, non pas une cave, comme c'est souvent le cas, mais là c'est dans un grenier, et il raconte que lui se mêle à eux, donc il a beaucoup écouté de musique, etc., mais il raconte n'avoir jamais idolâtré les chanteurs, ne s'être jamais vu en chanteur, et lui, il y a une sorte de malentendu, il pense pouvoir y jouer de la batterie.
Ouais.
Et arrivé sur place, en fait, il y a déjà un batteur et du coup, il n'y a pas d'autre solution que de prendre le micro. Et les premiers concerts que Carte de Séjour va donner, alors je ne sais pas si le groupe s'appelle comme ça d'emblée, mais c'est début des années 80. En plus, ils sont dans la région lyonnaise, donc les premières, ce qui est appelé plus tard comme des émeutes urbaines ou des choses comme ça, c'est à Vaux-en-Velin.
En début des années 80.
Voilà, ouais, donc dans la banlieue lyonnaise. Et donc, ils apparaissent dans ce contexte. Là, ils participent, disent-ils, à la marche des beurs, etc. Bref, ils sont pris dans ce mouvement où finalement les figures de l'immigration sont les choses sont assez dichotomiques. Soit on est l'immigré qui brûle les voitures, soit on est le bon immigré, bon élève, qui courbe la tête, on va dire. Et lui, visiblement, ne se reconnaît dans aucune de ces deux figures. Et donc, avec ses compères, déjà prennent le nom provocateur de carte de séjour, et veulent faire du rock, alors ce qui est perçu comme une subversion des deux côtés, parce que à la fois on attend d'eux qu'ils jouent les arabes de service, etc., ce qu'ils refusent de faire, parce qu'en fait ils disent nous ce qu'on aime dans le rock c'est faire les clashs, en fait, parce que les clashs, voilà, c'est les groupes de ce moment là donc être une sorte de subversion et avoir un message politique comme les clashs, mais du côté aussi de ce qu'on va appeler leur communauté d'origine. Eh bien, ils sont aussi mal perçus au sens où c'est un peu des vendus, et plutôt que de jouer la musique traditionnelle, ils font la musique des blancs, etc., etc. Bref, du coup, ils sont dans une position un peu difficile à tenir, et leur premier coup de maître, d'une certaine façon, c'est la reprise de Douce France de Charles Trenet, est un morceau qui est repris non sans ironie, non sans second degré, qui a pas forcément été compris par tout le monde, et avec en plus le morceau a fait scandale à l'époque parce qu'il y a une utilisation politique du morceau. Donc Jack Lang qui le fait distribuer aux parlementaires à l'Assemblée, donc c'est en 86, donc c'est déjà, si je me trompe pas, c'est Chirac qui est dans la place, Voilà, donc c'est perçu comme une provocation, et c'est marrant aussi comment Trainé finalement n'a pas trop le choix que de cautionner un morceau qu'il déteste par ailleurs, ne serait-ce que pour pouvoir apparaître comme quelqu'un d'ouvert, ce qui n'était pas du tout par ailleurs. Et Rachida a toujours refusé de poser en photo à côté de, de Charles Trainé. Donc voilà, c'est, et ce morceau a évidemment été victime d'une censure parce que il est classé au top 50 pendant une semaine, deux semaines, puis n'apparaît plus dans le top 50 alors que lui certifie que les ventes n'ont pas baissé, et quelques semaines plus tard le morceau réapparaît au top 50. Donc voilà, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais enfin en tout cas Rachida raconte que on a donné, en fait il a été censuré du top 50 tout cas.
Ah oui, donc on sait qu'il y a une dimension politique dans ce morceau, mais alors là tu racontes des choses encore plus étonnantes qu'on ignorait. Donc ça c'est en 86, oui. Carte de séjour ça s'est créé en 81, et puis le groupe se dissout à la fin des années 80, vers 89. Hein,
infos. Et le premier album solo de Rachida sous son propre nom s'appelle Barbès, et c'est en 91.
Voilà, donc c'est cette carrière de Rachida qui démarre en 91 qu'on va évoquer aujourd'hui. Je te propose d'écouter un second titre de l'album, là où justement le côté punk et la dimension subversive, l'utilisation du rock et des guitares est très très forte. C'est le morceau qui ouvre l'album, l'album du jour, l'album Made in Medina. Voilà, quelque chose d'explosif, hein, voilà, qui s'appelle Barabara.
Barabara, voilà le morceau qui ouvre cet album et qui est vraiment un morceau très très puissant.
الحزن ما بقى امان برا برا العطش والناس منحوسين برا برا الحرمه الظلم والعبوديه برا برا نشفوا الميدان هلك الاوراق برا برا النجوم تقدم كد الشمس برا برا ما بقى خير لا سعاده ولا زهر برا برا ما بقى السجلة سكتون الطيور برا برا ما بقى ليلة نهار غير الظلمة برا برا جهنم ما بقى الزين دم تسير برا برا الحيطان الحيطان واقفين برا برا الخوف الناس ساكتين برا برا الحزن البعد والزوارة برا برا الفزت الحزن ما بقى امان برا برا نشفو الودان عندك الحوراق برا برا النجوم تبادر كت الشمس
We'll be right back.
سعده ولا أزهق برا برا ما قد جو سكتوا الطيور برا برا ما قد إلا نهار غير الدمى برا برا ربنا جنم ما قصين برا برا أكثر زمان ما قد حرمى
Barabara, c'est le second morceau de l'album Made in Medina qu'on écoute aujourd'hui dans Auto Reverse. Comme on vous l'annonçait, un morceau pas nettement plus rock, parce que le premier était déjà bien, bien rock, mais qui montre bien les différentes pattes de Rachita, son croisement entre rail et rock. On va décrypter un peu le style, Manu. Voilà, ce mélange des genres qui fonctionne à merveille.
Ouais, ouais. Alors à propos de cet album, il a été dit que ça pouvait être de la douce trance, en référence à bien sûr à la chanson de Carte de séjour. On a aussi parlé de heavy oriental funk, puisque bon là, c'est, les morceaux qu'on a écoutés, c'est pas forcément le cas, quoique le premier, pourquoi pas. Mais il y a aussi certains morceaux une tonalité funk, et donc c'est vraiment un album. Et de manière assez générale, la discographie de Rachita s'inscrit. Elle est difficile à caractériser puisqu'il y a toujours des chose arabisante, va-t-on dire, mais derrière c'est tantôt électro, tantôt rock. Et d'ailleurs Rachita a dit que lui il aime que le terme de rock puisse désigner des choses aussi différentes que la house et le blues. Et d'ailleurs c'est un des premiers à avoir fait dans un format chanson de l'électro en France, dans un de ses, dans son deuxième album qui s'appelle Rachita. Il y a un morceau Voilà Voilà qui repose sur des boucles, etc. Et on est à l'époque en 93. Et il dit c'est l'album qui suit. Enfin, il y en a un entre deux, mais qui s'appelle ensuite Diwan en 98, là où il reprend entre guillemets des chansons traditionnelles d'Afrique du Nord. Et il dit là, à partir du moment où tout le monde faisait de l'électro, moi ça m'intéressait plus d'en faire, donc je suis reparti dans une autre direction.
Ouais, donc c'est vrai que c'était assez précurseur ce morceau Voilà Voilà. Ouais, je l'ai vaguement en tête. Il y a des choses.
Et c'est 93, et quand on situe ça dans la chanson en France à l'époque, faut regarder dans le détail, mais comme ça a priori on voit pas grand monde qui fait ce genre de musique.
Donc en tout cas inclassable, hein. C'est vrai que rock ça lui correspond bien. Par fainéantise parfois rangé dans la catégorie rail.
Ouais.
Bon, alors là, c'est une belle erreur. En plus, ouais. il trouve que il dit quelque part que le rail français, c'est le hold-up du siècle. Donc, tout ce qui correspond au Cheb Mami, ouais, ou voire même au Faudel, avec qui il va collaborer assez, mais aussi. Mais voilà, pour lui, c'est du rock. Il dit, comme tu disais tout à l'heure, il a toujours besoin de se justifier. Il explique à quelqu'un qui travaille avec Brian Eno, et c'est à Frédéric Becbédé, là, il le cite, Donc du coup, Beck Bédé devient aussitôt un de ses fans, comme s'il lui fallait, il fallait une caution quand tu es musicien arabe, alors qu'on va le voir au niveau des producteurs et des artistes rock cultissimes, il a travaillé avec pas mal de beaux mondes.
Ah oui, et sans doute le seul artiste inscrit, on va dire, dans l'espace français qui peut faire venir, comme tu dis, sur un album Brian Eno, Mick Jones, donc le guitariste des Clash, qui peut vraiment sortir hors du périmètre des artistes franco-français, c'est un des seuls qui a vraiment une ouverture comme ça internationale, notamment anglo-saxonne, mais à l'interne on lui renvoie toujours finalement son altérité originelle.
Et finalement c'est peut-être un peu, là on va parler en termes purement de reconnaissance, mais c'est peut-être ce qui le dessert un petit peu aussi, ce côté inclassable. Il fait jamais la une des magazines de variété, ni même des choses un peu plus pointues. Enfin, entre Télérama et Magic ou Les Inrecuptibles, il est apprécié, mais sans être vraiment une figure iconique.
Voilà, à chaque fois, en étant à la périphérie, finalement. Ouais. Là, j'ai regardé, le dernier album a été chroniqué dans les trois magazines que tu viens d'évoquer, mais effectivement, à chaque fois, je dirais de manière relativement secondaire.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et difficile de pour lui de trouver sa place.
C'est ça.
on va parler de ses influences. Donc on les a un peu décrites. Tu viens de citer un album de 98, c'est D1, c'est ça, où il reprend pas mal des artistes qui l'ont bercé peut-être inconsciemment dans sa jeunesse. C'était pas quelqu'un qui écoutait beaucoup de musique, dit-il, je crois, mais plutôt celle qu'écoutaient les parents dans les transistors, etc. Puis là, on va justement parler de musique traditionnelle nord-africaine.
Ouais, ouais. Donc il a écouté visiblement ça, ouais, avec les parents qui ont ramené cette musique dans les bagages. Et en fait, quand on regarde qui il reprend dans D1, et après il y a un autre album qui s'appelle D1 2 en 2006, deux albums dans lesquels il reprend des chanteurs, mais surtout des chanteurs qui chantent l'immigration. Beaucoup d'entre eux qui ont eu une période d'émigration, et donc c'est un peu des porte-voix de l'immigration maghrébine, et avec des chanteurs, voilà, surtout les chanteurs des années 50-60 qu'il a repris donc dans ces deux albums de chansons dites traditionnelles, mais qu'il revisite. Mais il raconte aussi dans beaucoup d'interviews que son premier peut-être choc musical, c'est Oum Kalsoum, celle qui a été appelée la cantatrice du peuple en Égypte. Donc il a vraiment beaucoup écouté, et il dit même que c'est en l'écoutant qu'il a appris à parler, à comprendre et à écrire l'arabe littéraire. Donc enfin, une figure qui semble avoir beaucoup compté dans son parcours, et qui en plus, enfin, quand on connaît la fin de l'histoire, Oum Kalsoum, c'était une proche de Nasser, donc il défendait la cause nationaliste égyptienne, mais aussi au-delà un panarabisme socialiste, etc. Et donc on voit très bien finalement l'intérêt qu'il a pu prendre chez une telle artiste, qui n'est pas, bien qu'on la résume souvent au côté égypto-égyptien, qui vaut largement au-delà.
Et qu'on va écouter tout de suite.
Hein. Voilà, alors avec un morceau qui s'appelle Metar Ya Nas.
Bini
Rivers, vous le croyez ça? Après Chopin la semaine dernière, on est ouvert à plein de nouvelles choses cette année.
Ouais.
Beaucoup plus d'éclectisme.
On a des
2014.
Bonnes résolutions en 2014. Ouais.
En fait, on a écumé toutes les influences traditionnelles qu'on ressasse à longueur de temps, les Neil Young, les Leonard Cohen et
on en a fait le tour
et les Beatles. Donc voilà, on va choisir des terrains un peu plus inexplorés. Quoique.
Voilà. Ouais, quoique. Aujourd'hui, on aurait pu également passer Elvis, puisque sur le dernier album de Rachita, donc, qui est sorti là il y a quelques temps, en 2013, il y a une reprise Elvis, It's Now or Never. Voilà, ça fait parmi beaucoup d'autres influences possibles.
Ouais, mais en tout cas, on va en parler de ces influences très rock maintenant pour parler de cette caractéristique quand même majeure de Rachita, c'est que c'est avant tout un super musicien de rock. Il joue de la guitare, hein, c'est ça? Tout à l'heure, t'as parlé un peu de...
Bah, je sais pas, en fait, moi, l'ayant vu sur scène, il ne fait que chanter sur scène.
Ah, je pensais qu'il
et je sais que sur pas mal d'albums, c'est son producteur, son compère historique, dont je retrouve plus le nom, Steve Hillage. Je pense qu'on prononce pas comme ça, Hillage plutôt sans doute, un ancien de Gong, et qui sait souvent sur les albums, c'est lui qui tient la guitare. Donc je ne sais pas dans quelle mesure il est musicien, instrumentiste en tout cas.
Un dernier album, donc album de 2013, oui. dont on parlera peut-être tout à l'heure, sur lequel donc intervient, on l'a déjà dit, Mick Jones, l'ancien guitariste des Clash, les Clash,
ouais.
Bientôt à l'affiche d'Otto Rivers, normalement.
Avec Schnapps, donc Schnapps n'est pas là aujourd'hui, mais c'est peut-être parce qu'il prépare justement son émission sur les Clash, qu'il nous a promise pour
mi-février
de mémoire, c'est ça, ouais. Donc effectivement, Mick Jones qui participe au dernier album. Avant de passer sur les Clash, j'ai oublié d'évoquer un truc, c'est que sur ce dernier album, il y a aussi il sample Oum Kalsoum sur un morceau, et il y a ce morceau s'appelle Zoom sur Oum. Et en fait, il y a un joli passage dans lequel il dit.
Il y a un joli jeu de mots aussi.
Voilà, ouais, exactement. Il dit quand je m'oxyde en Occident, je zoom sur Oum.
Ah oui, d'accord. Voilà. On dirait presque du rap.
Oui, mais ça c'est mon phrasé en fait qui naturellement a tendance à tout dès que
quand
je m'en parlais.
Quand je m'oxyde en Occident. Je zoome sur Oum. Ouais. Bon.
Ouais. Et donc il y a...
Il y a mieux au niveau des paroles.
Certes, mais oh, c'est pas mal quand même, je zoome sur Room, non?
Ouais.
Oui, 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 oui.
Tu fais la fine bouche, là, oui. Puis...
Non, c'est sûr que c'est sorti de son contexte.
Voilà, c'est ça, c'est que mise en mot, enfin mise en chant par Rachida, ça prend un peu plus d'épaisseur que lorsque c'est moi qui le prononce. En fait, c'était ça le sens de ta remarque en, ouais. En évoquant mon phrasé.
Alors là, sur les deux premiers titres qu'on a entendus et qu'on a écoutés, c'était deux titres en arabe. Presque tout l'album qu'on écoute aujourd'hui
ouais.
est chanté dans cette langue, à part ouais. Peut-être un ou deux morceaux
voilà,
ouais, de façon ouais. partielle.
Voilà, ouais, ouais.
Ce qui n'était pas le cas, comme on l'a dit tout à l'heure, des premiers donc de Cartes de ce jour, puis ouais. des premiers albums type Barbès,
ouais,
ouais, chanté exclusivement en français.
Effectivement, donc il chante exclusivement en arabe sur l'album Diwan, qui reprend des chansons dites traditionnelles d'Afrique du Nord. Et là, c'est quasi exclusivement, oui, en arabe, mais comme on le disait, avec musicalement, enfin c'est alors même s'il y a les instruments traditionnels arabes, donc de l'oud, etc., beaucoup d'instruments de ce type-là, l'instrumentation est quand même avant tout rock. Et Rachida n'a jamais caché son admiration pour les Clash. Et on va passer ensuite à un morceau des Clash, en l'occurrence Should I Stay or Should I Go. Donc le choix de ce morceau se justifie doublement. Donc déjà son titre Should I Stay or Should I Go, c'est déjà tout un programme qui renvoie, enfin biographiquement, de Rachida, une bonne partie de sa vie peut-être est résumée à travers ça. Il raconte d'ailleurs que son père, donc, il arrive d'une immigration de travail plus ou moins forcée dans les années 60, et que ils ont vécu dans l'illusion du provisoire qui dure. Ouais. Il raconte même que son père a un jour acheté une télé et qu'il l'a laissée longtemps dans un carton en disant c'est pas la peine de la déballer, on part la semaine prochaine.
Ah oui.
Donc en fait c'est cette illusion du provisoire qui dure et qui est constitutive d'une bonne partie de cette immigration de travail des années 50, 60 et début 70, c'est vraiment très très prégnante chez Rachida, ou en tout cas dans sa famille. Et ensuite Should I Stay or Should I Go, là c'est une expérience un peu plus personnelle, c'est que Rachida était venu en concert de clôture au festival à Oisem là au mois de mai, il y a 4 ou 5 ans. Mmh. Et avec lui Mick Jones sur scène. Mmh. Et dans le public une mixité sociale rarement rencontrée sur les scènes lilloises, pour ne dire jamais rencontrée, donc une capacité à fédérer sans équivalent à ma connaissance de Rachida. Et il était un peu là, il y avait aussi, je trouve plus son prénom, Christian Olivier des Têtes Raides. Et Rachida, c'était assez fantastique, il était là un peu en chef de cérémonie. Mm-hmm. Et il passait, je vais pas dire la parole, mais il passait la musique à l'un ou à l'autre. Et à un moment, une scène vraiment fantastique où il dit en français, donc sachant que Mick Jones parle pas le français, il fait « On a Mick Jones avec nous, et franchement, moi j'aimerais bien qu'il nous fasse le plus beau morceau du monde ». Et puis il fait et on voit la tête, c'était visiblement pas préparé, parce que quand on voit la tête de Mick Jones, il est surpris. Et donc là, Mick Jones entonne le riff ultra célèbre de ce morceau. Et suite à ça, donc je pense que j'ai vécu le plus beau pogo de mon histoire musicale. Je pense que j'ai fait 50 mètres en 10 secondes. C'était vraiment incroyable, une énergie sur ce morceau. Je pense peut-être mon plus beau moment en concert de ma carrière d'auditeur. Et ensuite, c'est la pause. Et après le rappel, Rachida se pose devant nous, il fait « Franchement, c'était trop bien, on le refait. » Et donc, une deuxième fois, « Should I stay or should I go ?» Et sur lequel finalement il ne faisait rien d'autre que d'être en retrait et d'admirer un peu comme ça en maître de cérémonie ce
pas.
Qui se passait devant lui. Non, c'était Mick Jones qui chantait.
Ah, quel regret de ne pas y être allé. J'étais dans les parages en plus, mais je n'étais pas resté à ce concert.
Ah là là, malheureusement. Grosse
Allez,
erreur de ta part.
On va écouter ça tout de suite.
Should I stay
or
should I go, des Clash.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees.
One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision may molest me.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Voilà, les Clash dans Auto Reverse, un avant-goût de ce que vous livrera bientôt notre ami Schnaps quand il viendra nous présenter le triple album Sandinista des Clash. Et donc là, à l'instant, c'était Should I Stay or Should I Go. Manu, c'est pas forcément la chanson des Clash qu'on aurait attendu, puisque Rachita est connu pour une reprise célèbre de... Des Clash.
Ouais, de Rock El Casbah, en fait. Bon, le morceau original, c'est Rock the Casbah, et lui, il a rebaptisé Rock El Casbah. Donc, c'est sur l'album qui suit. Attendez, non, il y a un live entre deux, et ensuite, l'album Tequitoi. Tout ça en un mot, en langage SMS, on va dire. Album 2004, il y a cette reprise, donc, des Clash Rock El, enfin, donc, le coup, là, c'est Rock El Casbah. Morceau originellement chanté par les Clash, en réponse, en fait, au fait que l'ayatollah Khomeini avait interdit le rock en Iran. Mmh. Et voilà, en opposition à ça, c'est l'idée la Casbah doit pouvoir vivre du rock. C'est une chanson qui a été écrite en réaction à ce contexte.
Et Mick Jones, qui, je crois, dit même qu'il préfère la version de Rachita à sa version, enfin à son groupe d'origine.
C'est,
et c'est vrai que ce morceau est fantastique. Il y a des reprises qui... transcende le morceau original et celui-là en fait partie. C'est le même sans être le même.
C'est ça.
Puis c'est fascinant.
Avec sa voix qui en même temps fait penser des fois à celle des Clash, avec un sens à la fois désinvolte mais rageur. Je sais pas, il arrive à un mélange dans sa voix qui est un peu rappeuse comme ça, à exprimer des choses. On a pu dire de Rachita que c'est une sorte de dandy rebelle, et je trouve que sa voix porte bien cela.
C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est très juste ce que tu dis.
Merci.
Et est-ce qu'on ne pourrait pas prouver ce que tu viens de dire en écoutant un nouvel extrait de Rachita de l'album du jour dans Auto Reverse?
L'album donc Made in Medina, donc rien qui dans le nom en fait est un mélange des influences anglo-saxonnes et des influences orientales. Et le morceau qu'on choisit, c'est Oh Chérie Chérie.
من صبرني وشري الشري نبغي تولي ماري وشري الشري وفرنسي سيجوري
Chérie, chérie de Rachita. En français, c'est joli. Ben oui, c'est un des rares titres en français, peut-être même le seul, faudrait vérifier, de l'album que Manu et moi revisitons aujourd'hui. Made in Medina de Rachita. On est en direct sur RCV 99FM, sur rcv-lille.com, sur vos applications mobiles et sur plein de choses. voilà.
C'est fait, c'est dit. Et on est aussi en 2000, donc, avec l'album Made in Medina. Qui est l'album qui fait suite avec à un événement dont on a déjà parlé, à savoir 1, 2, 3 Soleil, donc cet événement assez médiatique auquel Rachita a participé avec Faudel et Raled. Et c'était pour tous ceux qui suivaient un petit peu Rachita, un peu une surprise de le voir mêlé avec ces chanteurs, on va dire quoi, goldmaniens.
Faudel aussi ?
Faudel, je sais pas, ouais, mais enfin bon, qui avait été en gros lissé, enfin qui était plutôt variétoche,
ouais.
Alors que lui est plutôt dans un côté, on va dire, plus.
Le rail à la française ouais. Qu'il caractérisait de Hold Up là, tout
voilà,
à l'heure.
Voilà, voilà.
C'est un rap, je me souviens vaguement, mais c'est quoi ? C'était un projet genre. grande maison de disques, TF1, voilà, un peu chanson de l'été.
Ouais, je pense que c'est ça. Et puis aussi, 99, il devait y avoir, je sais pas, une jurisprudence Zidane,
oui,
etc. Je pense que ça devait flirter avec tout ça. Je sais pas. Le disque sort en 99, le disque en est issu. Je sais pas quand le projet, ça date exactement, mais c'est ça, quoi. C'est 98-99.
Donc un super groupe.
Voilà, une sorte de super groupe, ouais, avec pas que des super chanteurs qu'on aime. Et suite à ça, la question a été posée à Rachida, mais finalement, pourquoi avoir joué avec eux? Pourquoi cette compromis là-dedans? Alors, ça a au moins eu le mérite de faire connaître cette fantastique chanson Ya Raya, ouais, qui est une chanson traditionnelle qu'il avait déjà fait sur un album précédent, donc sur l'album Diwan, mais qui là était peut-être le point d'orgue de 1, 2, 3 Soleil. Et il s'en explique en disant ceci, donc je vais vous le citer, hein. C'est con à dire, mais même le fait de voir côte à côte trois chanteurs d'origine algérienne qui font des choses différentes, qui ne pensent pas exactement la même chose surtout, ça aide à asseoir cette idée qu'il n'y a pas, entre guillemets, les Arabes, mais des individus comme les autres qui ont leurs différences, comme absolument tout le monde. Mmh. Et c'est vrai que c'est assez cohérent avec la démarche globale de Rachida, qui refuse à tout moment d'être étiqueté comme une sorte de mascotte identitaire ou communautaire, mais finalement de revendiquer sa singularité, de dire je ne suis ni un arabe soumis, ni un arabe révolté, etc. Je fais de la musique, etc. Et donc c'est en revendiquant cette singularité qui prétend faire avancer les choses, et notamment aussi dans ce qu'on appelle entre guillemets sa communauté d'origine, où il dit que finalement c'est au moins autant contre les autres que contre eux qu'il agit, puisque en fait le conservatisme qui est à l'œuvre, faut pas qu'il y ait trop de têtes qui dépassent, etc. Et donc lui, en se teignant en blond, etc., c'était aussi une manière de provoquer tout cela.
Et puis le projet 1, 2, 3 Soleil n'a pas que des inconvénients.
Effectivement.
Puisqu'il va surtout permettre à Rachida de vivre, je dirais pas confortablement, mais en tout cas temporairement, et assez bien de sa musique.
Voilà, et de pouvoir donc mener comme il le souhaite, d'avoir finalement du coup là une reconnaissance et une masse financière qui lui permet finalement de produire ce qu'il veut derrière. Donc peut-être de compromission qui lui permet d'acheter les conditions de son indépendance future. Et donc là, le premier album qui suit 1, 2, 3 Soleil, c'est celui d'aujourd'hui, donc Made in Medina, où évidemment il contrôle vraiment tout de A à Z, et où il peut aller l'enregistrer. Donc c'est évidemment un de ses rêves, à la Nouvelle-Orléans. Et il a des mots très beaux à propos de la Nouvelle-Orléans, en disant que finalement c'est un peu le lieu rêvé, puisque c'est à la fois une terre de francophonie, c'est à la fois une terre anglo-saxonne, et aussi une terre via, c'est le sud des États-Unis, donc c'est une terre, l'Afrique est présente, il le dit en ces termes-là. Et du coup, il dit voilà, ça résume un peu sa vie et tout, ouais, tout ce qu'il aime, c'est une sorte de foyer dans lequel tout ce qu'il est cohabite.
On va continuer en parlant des contemporains ou de l'héritage, ou disons d'autres groupes qui partagent une même démarche que Rachida. Alors, il y en aurait beaucoup à citer, des groupes qui mêlent le rock à des influences d'autres musiques. Mais là, on va parler d'un projet des années 2000. Hein,
2000, oui, c'est ça. Ouais.
Et c'est vrai qu'il partage beaucoup de choses avec Rachida, c'est le projet Interzone.
Interzone, oui, donc qui est le projet, je vais commencer par celui qui est le plus connu sans doute de nos auditeurs, donc Serge Tessoguet, guitariste de Noir Désir, entre autres, et qui a donc ce projet Interzone avec un, je crois qu'il est syrien, j'ai pas vérifié, Khaled Al-Jarmani, qui joue de l'oud, et qui ont fait donc un album, enfin il y en a même deux à deux, et qui ont fait des vraiment des choses très très belles. Et sur scène, c'est super vraiment super intéressant, puisque on voit Serge Tessoguet qui parle français et anglais, Khaled Al-Jarmani parle arabe et espagnol, je crois. Donc en fait, ils se comprennent pas, et donc ne serait-ce que pour lancer les morceaux, ils se regardent, et puis il y en a un qui lance un accord et l'autre suit. Et comme je les avais vus sur scène, donc là c'est en 2005, donc suite à cet album-là, donc il y a 9 morceaux. Et Serge Tessoguet était un peu embêté en disant bah désolé, on a fait nos 9 morceaux, on n'a plus grand-chose à vous jouer. Il dit mais on va vous en refaire une. Et là l'autre était en train de ranger son matériel. Donc on voyait bien qu'il comprenait pas ce que Serge Tessoguet pouvait lui dire. Enfin bref, le mieux c'est de vous permettre d'écouter. Donc c'est la plage qui ouvre ce premier album d'Interzone, et ça s'appelle Chataraban.
Thank you.
Le projet Interzone de Serge Tessoguet et de son ami
Khaled Al-Jarahmani.
Dans Two Rivers, voilà, une des choses qui s'est faite récemment, qui est très bien et finalement qui est assez peu rock sur le morceau qu'on vient d'écouter.
Bah c'est difficile, on entend très bien la guitare électrique, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas la structure, couplet, refrain. Mais si on entre dans la définition du rock de Rachita, ça y est complètement, puisque finalement pour lui rock, et on verra dans le morceau qu'on va écouter, donc ça va être un morceau live du morceau qui clôture Made in Medina, donc l'album du jour. Le morceau s'appelle Garab, en l'occurrence il le dit deux fois je pense, c'est une fois Garab, non. Et ce qui veut dire approche, et dans le titre pendant que le morceau s'écoule, s'étire, il parle pendant le morceau et il dit finalement tout vient du vaudou. Et il dit que finalement la soul, le funk, la house, le rock, tout ça c'est la même chose, c'est des musiques destinées finalement à générer des états particuliers. Donc du point de vue de la définition de Rachita, on est dans du rock.
Mais là ce que fait Tessoguet finalement avec sa guitare, c'est quand même très proche de ce que fait son comparse à Lou. Ouais, finalement, il reproduit un peu la même structure musicale, tandis que dans ce qu'on écoute avec Tara, là, il tranche complètement avec Lou ou les autres instruments ensemble qu'on va entendre en arrière-fond. Pour mettre une grosse décharge d'ampli Marshall.
Ouais, notamment sur l'album du jour, il importe de la musique d'Afrique du Nord dans un format rock globalement.
C'est de l'import export finalement.
Encore une fois, voilà. D'ailleurs, ça me pensait une phrase qu'on pensait évoquer mais qu'on n'a pas dit tout à l'heure. En préparant l'émission, on essayait de voir mais quels sont les groupes finalement qui ont cherché à marier des influences comme ça différentes. Et très rapidement, dès que la pop arrive, des groupes le font, notamment les Beatles. Et Rachita a des jolies phrases, des jolis mots à propos des Beatles en disant que finalement, si c'est le plus grand groupe de l'histoire, c'est parce qu'ils ont une intelligence d'aller voir ailleurs. Et c'est vrai, l'utilisation du sitar, etc., qu'ils ont importé, à mon avis, ou en tout cas qu'ils ont utilisé de façon systématique via George Harrison dans le groupe et généralement dans la pop qu'on pouvait écouter de ce côté-ci du monde. Mais il y a plein d'autres groupes aussi. Antenne, tu parlais de Damon Albarn qui a beaucoup travaillé sur des projets. Alors lui, plutôt avec d'Afrique de l'Ouest, plutôt avec le Mali.
Plein d'artistes à évoquer. Ça pourra faire l'objet de d'émissions futures, ça. Damon Albarn, c'est vrai qu'il a des projets intéressants.
On pourrait en parler. On aurait pu parler aussi des groupes Touareg, Tina Wiren ou Tammy Crest, qui chantent en langue Touareg, etc. Mais que c'est assez proche. Il y a un discours politique très fort, en reconnaissance de la cause Touareg, mais sur des formats. Finalement, des auditeurs comme nous s'y reconnaissent assez rapidement, tout en étant quand même un petit peu, c'est le décalage optimal, je dirais, d'une certaine façon.
Le décalage optimal.
Voilà. Alors, qui est une notion de psychologie cognitive en termes d'apprentissage. L'idée, le niveau de difficulté optimal, en fait. Si c'est trop dur, tu vas pas t'engager dans la tâche. Si c'est trop facile, tu t'y engages pas non plus. Et donc, l'idée de décalage optimal qui va faire que la tâche est suffisamment difficile pour que tu vois un défi et que ça donne envie de l'accomplir. Mais non plus pas trop difficile pour que tu te sentes capable d'y aboutir.
Manu, j'apprends toujours des choses avec toi. que ce soit sur Rachita et la censure de son Douce France jusqu'à ce concept de psychologie cognitive.
C'est incroyable, Auto
Reverse. Une heure d'Auto Reverse et on est moins bête. Encore, par rapport aux auditeurs, moi j'ai la chance de pouvoir te parler après. Voilà. Tandis que pour les auditeurs, il va falloir attendre la semaine prochaine.
Ça va être long.
L'heure d'apprentissage se termine maintenant, ou presque. Il est 18h et quelques sur l'antenne de RCV. Pas de schnapps ce soir, hélas, il sera là la semaine prochaine.
Hélas, il n'est pas là aujourd'hui, et heureusement, il sera là la semaine prochaine. Tu as dit hélas, il sera là la semaine prochaine. Donc.
Ça dépend où on place la virgule. Et on va donc se quitter en chanson, en vous vous disant que l'émission sera bientôt disponible sur notre audioblog que vous pourrez retrouver via le site de RCV, ainsi que toutes les précédentes émissions. La semaine prochaine, on essaiera de parler de tout à fait autre chose avec Broadcast dans un autre registre. On termine, Manu, l'émission avec un morceau live alors.
Voilà, le morceau Garab en live et qui donne un peu un aperçu de ce qu'est Rachita sur scène, et on ne saurait trop recommander de vous inviter à aller le voir. Ouais.
Prochainement dans la région, peut-être pas.
Je ne sais pas, j'ai pas vérifié.
À vérifier. Peut-être qu'il était venu pour son dernier album il y a quelques temps.
Mais c'est vraiment une très grande expérience que de voir Rachita sur scène.
Merci à toi, professeur Manu, et à la semaine prochaine.
Je ne te remercie pas de tes moqueries.
Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire Garab, c'est Kirurab en arabe, tu vois. Garab, approche, baby, approche,
Garab,
c'est une invitation à la transe, ouais, à la douce transe, voilà. Go,
Garab,
et approche. Allez, dis à roi.
Garab,
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 garab, garab,
garab,
garab,
garab,
garab,
garab,
garab, garab, garab,
garab,
garab,
garab,
garab,
garab,
garab,
garab,
approche,
garab,
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 elle est
doigt.
Rock'n'roll, techno, la house.